Ma version de 12 hommes en colère fut annulée. À la place, nous avons joué mort d'un lycéen en 3 actes. Visite au funérarium, cérémonie à l'église méthodiste, bénédiction sur la tombe au cimetière de West Hill. Toute la ville, ou à peu près, ce qui ne fait pas une bien grosse différence, assista à cette pièce lugubre. Au funérarium, les rôles principaux furent tenus par les parents de Vince et sa petite sœur sous le choc, assis sur des chaises pliantes à côté du cercueil. Quand ce fut notre tour, à Sadie et moi, de nous approcher, Mrs. Knowles se leva pour m'étreindre. L'odeur de son parfum White Shoulders et de son déodorant Iodora m'a suffoqué. « Vous aviez changé sa vie !» me murmura-t-elle à l'oreille. « Il me l'avait dit !» Pour la première fois, il avait eu la moyenne, parce qu'il voulait être acteur. « Madame Knowles, je suis tellement navrée !» lui ai-je dit. Puis une pensée terrible m'a traversée. C'est peut-être l'effet papillon. Peut-être que Vince est mort parce que je suis venu à Jody. Et comme pour m'en préserver, j'ai étreint plus fort la mère de Vince. Le cercueil était recouvert de photomontages de la trop courte vie du garçon. Devant, sur un chevalet, était posée une photographie de lui costumé en George dans « Des souris et des hommes ». Son visage intelligent et boudeur pointant sous le chapeau cabossé du local aux accessoires. Vince n'avait pas de réel talent d'acteur, mais cette photo l'avait saisi avec un sourire déluré absolument parfait. Sadie se mit à sangloter, et je savais pourquoi. La vie prend des virages à 180 degrés. Parfois, elle tourne dans notre direction, mais le plus souvent, elle nous nargue en s'éloignant sur les chapeaux de roue. « Ciao, bébé ! C'était bien le temps que ça a duré, pas vrai ?» Eh oui. C'était bien pour moi, Jody. J'y étais bien. À Derry, j'avais été un étranger, mais j'étais chez moi, Jody. C'était devenu ça, chez moi. L'odeur des étendues d'armoises sauvages et les collines revêtues de leur couverture indienne de fleurs oranges vives en été. C'était la légère saveur de tabac sur la langue de Sadie et le grincement des lames du plancher huilé dans ma petite maison de plein pied. C'était Ellie Doherty, suffisamment attentionnée pour nous envoyer un message en pleine nuit, peut-être pour nous permettre de rentrer discrètement en ville, plus probablement juste pour que nous soyons au courant. C'était le mélange suffocant de parfums et de déodorants lorsque Mrs. Knowles m'avait étreint. C'était Mike, au cimetière, passant son bras, celui qui n'était pas dans le plâtre, autour de mon épaule, puis pressant son visage contre moi le temps de dominer à nouveau son émotion. C'était le gros pansement sur la joue de Bobby Jill. Oui, ça aussi c'était chez moi. Et penser qu'à moins d'avoir recours à la chirurgie esthétique, chose que ne pourrait lui offrir sa famille, elle garderait toute sa vie une cicatrice qui lui rappellerait comment elle avait vu un de ses copains mourir sur le bas-côté de la route. Chez moi, c'est le brassard noir que nous avons porté pendant une semaine. Sadie, moi et tous les autres profs du lycée. C'est Al Stevens, affichant la photo de Vince dans la vitrine de son restaurant. C'est les larmes de Jimmy Ledoux, debout devant tout le lycée, lorsqu'il dédia à Vince Knowles la saison de football de leur équipe invaincue. Tant d'autres choses encore. Des gens me disant bonjour dans la rue. Des gens m'adressant un signe amical de la main quand ils me croisaient en voiture. Al Stevens nous conduisant, Sadie et moi, à notre table dans le fond, comme il s'était mis à l'appeler. Jouer au crib pour un sous le poing avec Denis Laverty le vendredi après-midi en salle des profs. Discuter avec la vieille Miss Meyer pour savoir qui, de Chet Huntley et David Brinkley ou de Walter Cronkite, était le meilleur présentateur de journal télévisé. Ma rue, ma maisonnette de plein pied, me remettre à la machine à écrire, avoir une copine, des timbres verts S et H quand je fais mes courses, et du vrai beurre dans mon pop-corn au cinéma. Être chez soi, c'est regarder la lune se lever sur la vaste terre endormie et pouvoir appeler quelqu'un à la fenêtre pour la contempler ensemble. On est chez soi quand on danse avec les autres et quand la vie est une danse. L'an de grâce 1961 touchait à sa fin. Par une soirée pluvieuse, environ 2 semaines avant Noël, je rentrais chez moi après les cours, de nouveau emmitouflé dans ma veste de rancher en mouton retourné, quand j'entendis le téléphone sonner.
« C'est Ivy Templeton !»
me dit une voix de femme.
« Mais vous vous rappelez sûrement pas de moi ?»«
Je me souviens très bien de vous, Miss Templeton. »
« Je sais même pas pourquoi je me fatigue à vous appeler. Vos 10 foutus dollars sont bouffés depuis des lustres. Mais votre visite m'est restée dans la tête. À Rosette aussi. Elle vous appelle le monsieur qui a trécepté ma balle. »
« Vous déménagez, Miss Templeton ?»«
Bingo ! Ma maternelle monte de Moselle avec la camionnette pour venir nous chercher. »
« Vous n'avez pas de voiture ? Elle est en panne ?»«
Notre clou marche assez bien pour l'épave que c'est. » Mais c'est le Harry qui pourra plus jamais monter dedans, ni la conduire. Il bossait sur un de leurs maudits chantiers Manpower, le mois dernier. Il est tombé dans un fossé, et un camion de gravier lui a reculé dessus. Colonne vertébrale cassée.
J'ai fermé les yeux et visualisé l'épave de la bétailière de Vince remorquée dans la rue principale par la dépanneuse Sunoco de Goji. Du sang plein à l'habitacle, visible par le pare-brise en miettes. « Je suis désolé d'apprendre ça, Miss Templeton. »«
Il vivra, mais il marchera plus. Il va rester assis dans un fauteuil roulant et pisser dans une poche en plastique. Voilà ce qu'il va faire. Mais d'abord, il va descendre à Moselle sur le plateau de la camionnette à ma maternelle. On va barboter le matelas de la chambre pour le coucher dessus. Ça sera un peu comme emmener son chien en vacances, vous trouvez pas ?»
Elle se mit à pleurer.
Je suis en retard de 2 mois sur le loyer. Mais c'est pas ça qui me fait calamité. Vous savez ce qui me fait calamité, Monsieur X ? J'ai plus que 35 foutus dollars et après ça, plus rien. Enfoiré de connard, Harry. Il aurait pas pu tenir sur ses guiboles que je me retrouve pas dans cette panade. Je croyais que j'étais dans la panade avant, mais là, c'est le bouquet.
Elle renifla. Il y eut un long borborygme mouillé dans mon oreille.
Vous savez quoi ? Le maudit facteur, il me faisait de l'œil. Et je me suis dit que pour 20 dollars, je pourrais le laisser me sauter sur le plancher du salon. Et pour pas que les maudits voisins d'en face nous voient, je pouvais quand même pas l'emmener dans la chambre, hein ? C'est là qu'est mon foutu mari avec son dos flingué.
Elle a lâché un rire rauque.
Je vais vous dire. Pourquoi vous viendrez pas faire un tour ici, dans votre décapotable royal ? M'emmener dans un motel, quelque part ? Vous allongez un peu plus de blé pour une suite. Comme ça, Rosette, elle pourra regarder la télé pendant que je vous laisserai me sauter. Elle et moi, on a eu l'impression que vous êtes à l'aise dans la vie.
Je n'ai rien dit. Je venais d'avoir une idée. Elle brillait au-dessus de ma tête comme une ampoule. Pour pas que les maudits voisins d'en face nous voient. Il y avait un autre homme que j'étais censé voir. En plus d'Oswald. Un prénommé George, comme moi. Et qui allait devenir l'unique ami d'Oswald. « Méfie-toi de lui », avait écrit Hal dans ses notes.
« Et vous êtes là, Monsieur X ? Si vous êtes plus là, ben, sayonara et allez vous faire foutre. »
« Ne raccrochez pas, Miss Templeton. » « Supposons que je vous paie vos arriérés loyers et que je rajoute 100 dollars par-dessus le marché. 200 dollars, c'était largement plus que ce que j'avais besoin de payer pour obtenir ce que je voulais. Mais je les avais et elle en avait besoin. »
« Alors là, monsieur, pour 200 dollars, je laisse même mon père regarder. »
« Vous n'avez besoin de laisser personne faire quoi que ce soit, Miss Templeton. Tout ce que vous avez à faire... c'est de me retrouver sur le parking au bout de la rue et de m'apporter quelque chose.